Richard Lesclide. Contes bleus et roses pour l'amusement des petits et des grands enfants. Boule de neige. L'hiver était âpre et rigoureux, et le froid durait depuis si longtemps qu'on avait fini par s'y accoutumer. Une très belle reine, dont on ne m'a pas dit le nom, brodait auprès d'une fenêtre ouverte et regardait la neige qui tombait à flocons épais. Un tapis éblouissant de blancheur s'étendait sur la campagne. Sur ce fond d'argent, les arbres dépouillés agitaient leurs grands rameaux noirs. Comme elle s'ennuyait de n'avoir pas d'enfant, elle était passablement distraite. Son aiguille maladroite piqua l'un de ses beaux doigts blancs. Quelques gouttes de sang vermeil tombèrent sur l'appui de la fenêtre et firent sur la neige des taches d'un rose vif. « Ah !» dit la reine en soupirant, « pourquoi n'ai-je pas de petite fille ? Elle aurait le teint blanc comme la neige, les lèvres roses comme ce sang, les cheveux noirs comme les ébéniers de mon jardin. » Elle soupira en disant ces paroles et tomba dans une profonde rêverie. Le roi, qui survint, eut beaucoup de peine à la consoler. Au bout d'un certain temps, ses souhaits ambitieux furent exaucés. La reine eut une petite princesse blanche, rose et brune, qui passait pour une merveille et qu'on ne pouvait se lasser d'admirer. On l'appela Boule de neige. La pauvre mère ne jouit pas longtemps du bonheur d'embrasser son enfant. Elle mourut de maladie, comme c'était l'usage en ce pays. Le roi, après l'avoir beaucoup regrettée, se décida à faire un second mariage. Il épousa une souveraine étrangère, d'une grande beauté, mais d'un orgueil plus grand encore. Elle avait été élevée dans une cour brillante, au milieu des basses adulations d'une foule de courtisans. Il se pâmait d'enthousiasme à tout ce qu'elle faisait, à tout ce qu'elle allait dire. Cela pervertit le caractère de la jeune fille, qui devint impérieuse, hautaine, et qui ne pouvait supporter l'idée que personne pût lui être comparé. Une coquetterie poussée à l'excès ruina le peu de bonne qualité qu'elle pouvait avoir. Elle devint méchante, cruelle, et l'on assurait qu'elle avait fait périr en prison plusieurs dames d'honneur qu'on avait osé trouver jolies devant elle. Le roi ne savait rien de tout cela. Il avait pris la princesse pour femme, sur le vu d'un portrait où on l'avait représentée en déshabillé du matin. La nouvelle reine s'installa au palais, apportant avec elle un miroir magique que lui avaient composé les astrologues de la cour de son père. Elle avait coutume de s'y regarder tous les jours et de le consulter sur ses affaires intimes. « Dis-moi, miroir, lui disait-elle, dis-moi la vérité. Dans le nouveau pays que je vais gouverner, quelle est la plus belle des femmes ?» « C'est toi !» répondait le miroir. Elle s'en allait satisfaite après avoir ajouté un pompon à sa coiffure ou un ruban à son corsage. C'était une fort belle personne, en effet. Quant à Boule de neige, sa nouvelle maman s'en était peu inquiétée. On lui avait présenté, à son arrivée, dans un paquet de dentelles, un bébé rose qui lui avait souri en lui tendant ses petites mains. Elle l'avait lorgné un instant, et l'enfant avait été relégué avec un bataillon de nourrices dans un pavillon peu fréquenté. Le roi, qui s'occupait beaucoup de politique, n'y avait pas pris garde, et la petite princesse grandit dans cette sorte d'exil. Cela ne l'empêcha pas de devenir peu à peu la plus charmante fille du monde. Un jour qu'elle avait 12 ans et qu'on lui mettait sa première robe longue, la reine s'avisa, suivant son habitude, de consulter son miroir. Celui-ci fit quelques difficultés pour parler. « Tu es très belle, sans doute, dit-il, mais Boule de neige commence à l'être encore plus que toi. » À ces mots, la reine pâlit de rage et appela un de ses gardes, qui était un assez mauvais garçon. « Allez prendre Boule de neige, lui dit-elle, et conduisez-la dans la forêt dangereuse. « Je compte sur vous pour la mener au bon endroit. Si vous tenez à la vie, faites en sorte que je ne la revoie jamais. » Cette forêt peu fréquentée était peuplée de bêtes féroces, et l'on n'avait pas d'exemple que personne n'en fût jamais revenu. Le garde n'était pas trop content de la corvée qu'on lui imposait. Cependant, comme il fallait obéir, il alla chercher la princesse et lui signifia les ordres qu'il avait reçus. Il ne lui laissa même pas le temps d'embrasser son père. Personne n'osa s'opposer à leur départ, car la méchante reine faisait tout trembler. Le soldat et la jeune fille partirent ensemble et s'enfoncèrent dans le bois. À mesure qu'ils avançaient, les hurlements des loups, les grondements des tigres devenaient plus distincts et leur causaient une frayeur extrême. Le garde épouvanté refusa d'aller plus loin et tira son sabre pour se défaire de la princesse. Mais elle fut plus prompte que lui, et quand elle connut ses méchantes intentions, elle prit la fuite et se cacha dans un fourré où il ne put la retrouver. Il ne s'en inquiéta guère, content qu'elle n'échapperait pas à la griffe des lions. Boule de Neige n'était pas rassurée à cet égard. Dès qu'elle eut vu le soldat disparaître, elle chercha à s'orienter pour revenir chez elle. Mais le moyen de deviner la bonne route au milieu d'une forêt inconnue. Elle marcha tant qu'elle put, et elle était au moment de tomber de fatigue quand elle aperçut une clairière dont une petite chaumière occupait le centre. Elle sauta de joie et courut frapper à la porte de la maison comme une belle enfant sûre d'être bien accueillie. La porte céda sous sa main. Elle entra dans une chambre rustique entièrement déserte. Tout était, dans l'habitation, d'une propreté parfaite. Sur une petite table dressée au milieu de l'appartement, on voyait une nappe blanche avec 7 petites assiettes, 7 petits pains, 7 petits verres et 7 petits couverts. Près de la muraille, 7 petits lits dont la couverture était faite s'alignaient l'un à côté de l'autre dans un ordre admirable. On eût dit un grand ménage de poupées. Boule de Neige avait faim et elle se mit sans façon à faire la dinette, comme cela lui arrivait dans son palais quand elle réunissait ses bonnes amies. Elle but dans tous les verres et mangea de tous les plats. Puis, comme elle était fatiguée et que les lits étaient trop petits pour sa taille, elle se coucha sur un grand tas de feuilles sèches qui se trouvait dans un coin de l'appartement. Au bout d'un moment, elle dormait d'un bon sommeil et oubliait ses malheurs dans de beaux rêves. La nuit était tout à fait tombée quand la porte de la chaumière s'ouvrit pour donner passage au maître de la maison. C'étaient 7 nains, de la race des kobolds, qui vivaient en famille et passaient leur temps à travailler sous terre à la formation des mines. Ces génies, laborieux et bienfaisants, ne disposaient que d'une puissance restreinte, mais ils s'en contentaient et l'employaient utilement. Ils allumèrent 7 petites lampes et s'assirent autour de la table. Ils virent aussitôt que tout n'était pas dans l'ordre accoutumé et s'écrièrent ensemble « Qui s'est assis sur ma chaise ? Qui a mangé dans mon assiette ? Qui a coupé mon pain ? Qui a bu dans mon verre ? Qui a touché à ma fourchette ? Qui s'est servi de mon couteau ? Qui a déplié ma serviette ?» Personne ne répondit, et les 7 frères se levèrent d'un commun accord pour explorer l'intérieur de la cabane. Mais l'un d'eux, tout à coup, imposa silence aux autres. Il leur montra sur son lit rustique Boule de Neige, qui dormait avec son bras passé sous sa tête en guise d'oreiller. Ils se récréèrent d'étonnement et approchèrent leurs lampes pour la mieux voir. « Grand Dieu » dirent-ils, « quelle belle petite fille !» Notez toutefois que Boule de Neige était d'une autre taille que les kobolds et que le plus grand d'entre eux ne lui serait pas venu à la ceinture. Ils firent attention de ne pas la réveiller et jetèrent sur elle les couvertures de leur lit pour qu'elle n'eût pas à souffrir du froid de la nuit. Aussi, la pauvre mignonne dormit-elle jusqu'au jour. Elle se réveilla un peu endolorie, car on ne l'avait pas habituée à coucher sur des feuilles. Quel fut son étonnement en voyant autour d'elle 7 petites figures qui la regardaient avec de grands yeux. Elle aurait eu peur, sûrement, sans les regards bienveillants et les sourires de ses hôtes, qui lui souhaitèrent gracieusement le bonjour. Boule de Neige leur raconta son histoire, et quand ils surent qu'elle avait été abandonnée, ils consentirent à la garder avec eux. Mais ils la prièrent de veiller à la propreté et à l'ordre de la chaumière. Elle s'y engagea volontiers et prit le gouvernement de leur cuisine et de leur lingerie. Avant d'aller au travail, ils lui firent 1000 recommandations prudentes. « Ne sortez pas, lui dirent-ils, et pendant que vous arrangerez la maison, tenez la porte bien fermée. La reine apprendra tôt ou tard où vous vous cachez, et vous auriez à vous en repentir si vous faisiez des étourderies. » Leur prévision n'était que trop juste. Quelques jours après, la reine, qui ne doutait pas de la mort de Boule de Neige, s'approcha de son miroir et lui dit en minaudant « Dis-moi, miroir, dis-moi la vérité. De toutes les femmes de ce pays, quelle est la plus belle ?»« Reine, répondit le miroir, tu es la plus belle femme de la ville. Mais dans la forêt dangereuse, sous le toit des kobolds, Boule de Neige cache sa tête, et elle est, ô reine, bien plus belle que toi. » La méchante femme faillit tomber à la renverse en entendant ces paroles. Elle fit appeler le soldat qui avait emmené Boule de Neige, et quand il lui eut avoué ce qui s'était passé, elle le fit pendre sans autre forme de procès. Puis elle se déguisa en vieille marchande et se fit conduire par des chemins sûrs près de la demeure des 7 nains. Boule de Neige, qui avait fini son ouvrage, était assise auprès de la fenêtre. Elle ne fut pas peu surprise de voir paraître une vieille femme qui lui faisait des révérences, car il passait peu de monde dans le pays. « Que voulez-vous, ma bonne mère ? » lui demanda-t-elle avec sa douceur ordinaire. « Je veux vous vendre de belles marchandises, » répondit la vieille, « et vous ne les paierez pas cher. Voici des lacets, de la soie et des rubans de toutes couleurs. » « Je n'ai pas d'argent, » dit la princesse en soupirant de regret. « Je ne demande rien aux jolies filles, » dit la marchande, « c'est un plaisir pour moi de les parer. Ouvrez-moi la porte seulement. » « Hélas, ma bonne femme, je ne saurais, on me l'a défendu. J'en ai tout le chagrin du monde, car vous me paraissez bien honnête. »« Penchez-vous au moins à la fenêtre, » dit la vieille, « que je puisse vous attacher cette cravate rose. » »« Allons, » dit Boule de Neige en souriant, « je ne veux pas vous désobliger. » La reine s'approcha de la jeune fille et entoura vivement son cou d'un cordon de soie qu'elle serra avec violence. Boule de Neige perdit la respiration, se sentit étranglée et tomba sans mouvement sur le parquet, pendant que son ennemi disparaissait à la hâte. Rien ne saurait dépeindre le désespoir des 7 nains quand ils trouvèrent, en rentrant, la princesse étendue à terre et complètement inanimée. Son cœur ne battait plus. Elle semblait tout à fait perdue. Cependant, ils l'entourèrent de tant de soins, après avoir desserré le fatal cordon, qu'elle fit un mouvement et finit par revenir lentement à la vie. 2 jours après, il n'y paraissait plus et elle avait repris sa gaieté et ses couleurs. Mais cet accident fut le sujet de 1000 discours que lui tinrent ses protecteurs. « Cette méchante vieille était la reine, lui dirent-ils, et vous devez vous attendre à lui voir prendre toutes sortes de déguisements pour vous tourmenter. Restez donc dans la maison pendant nos absences et ne vous montrez à la porte ni à la fenêtre sous aucun prétexte. » Boule de Neige promit de se tenir en garde contre les surprises qui pourraient lui être faites. Pendant qu'elle formait à cet égard de sages projets, la reine consultait son miroir qui, à sa grande surprise, lui répondait encore « Reine, tu es la plus belle femme de la ville !» Mais dans la forêt dangereuse, sous le toit des kobolds, Boule de Neige cache sa tête, et elle est, ô reine, bien plus belle que toi. » Suffoquée de colère, l'abominable femme résolut de se défaire à tout prix de la princesse, et elle passa plusieurs jours à songer à ce qu'elle pourrait faire pour y arriver. Elle combina les poisons les plus subtils, et quand elle eut terminé son infernale cuisine, elle y trempa des bleuets et des marguerites qu'elle cacha sous ses habits. Affublée d'un costume de jeune paysanne et d'une large cornette qui lui couvrait en partie le visage, elle vint rôder plusieurs jours de suite auprès de l'habitation des nains. Elle feignait de folâtrer çà et là, courant sur les gazons et cueillant des fleurettes. Boule de Neige la regardait d'un œil d'envie à travers les fenêtres closes, car un de ses plus grands plaisirs était de se rouler sur l'herbe en faisant des bouquets. Elle trouvait bien triste et bien sombre l'intérieur de la chaumière qu'elle ne devait pas quitter. Un matin, que le soleil semblait être plus gai qu'à l'ordinaire, elle entr'ouvrit doucement la croisée, respira le grand air et dit adieu à la jeune paysanne. « Venez donc jouer avec moi, » lui dit en riant l'inconnu. « Je ne saurais, » répondit la princesse, « on me l'a défendu. » « Acceptez du moins ce bouquet, » dit la reine, en lui jetant les fleurs qu'elle avait préparées. Boule de Neige les ramassa sans défiance, mais à peine les eut-elle approchées de son visage que ses couleurs se fanèrent et disparurent subitement. Ses yeux s'éteignirent, ses lèvres blanchirent. Ses genoux fléchirent sous elle, et elle resta comme une statue de marbre, froide et immobile. « Cette fois, dit la reine en s'éloignant, rien ne peut te sauver. » Elle fit diligence pour entrer au palais et courut à son miroir pour lui faire sa question favorite. « Dis-moi, miroir, dis-moi la vérité, quelle est la plus belle des femmes ?»« C'est toi, » répondit le miroir. Le cœur de l'envieuse battit de joie, et c'est avec une figure rayonnante qu'elle parut le soir même au bal de la cour. Quand les nains rentrèrent chez eux et qu'ils trouvèrent Boule de Neige sans mouvement, ils crurent d'abord qu'elle était évanouie comme la première fois. Mais tous leurs efforts pour la ranimer furent inutiles et la belle petite fille ne se réveilla plus. Les bleuets et les marguerites qu'ils trouvèrent dans un coin leur firent deviner la cause et l'auteur de ce crime. Pendant que les six frères pleuraient à chaudes larmes, l'aîné des kobolds rêvait profondément en examinant à distance le bouquet fatal. « Rassurez-vous, leur dit-il enfin, la poussière vénéneuse qui a paralysé notre ami n'est pas sans contrepoison. La mort qui l'a frappé n'est pas absolue. L'enfant est simplement en proie à une crise qui suspend sa vie et l'exercice de ses facultés. Elle est comme cristallisée dans sa jeunesse et dans sa beauté. Ce qui vous le prouvera, c'est qu'elle restera pâle et glacée, telle que vous la voyez maintenant, pendant de longues années. Il faut bien nous garder de l'enterrer. Nous lui ferons un petit lit où nous la coucherons commodément, et pendant que l'un de nous veillera auprès d'elle, nous irons par toute la terre chercher le filtre qui doit lui rendre le mouvement et la santé. » Ce discours consola les nains, qui chérissaient Boule de Neige comme s'il eût été leur fille. Ils élevèrent dans une alcôve un reposoir orné de fleurs, où ils placèrent cette petite merveille. Dans sa blanche immobilité, la princesse ressemblait à une statue de marbre, sauf les beaux cheveux noirs qui, débordant autour d'elle, l'entouraient d'un cadre funèbre. Rien n'était plus touchant à considérer. Cependant, les kobolds se mirent successivement en voyage, à l'exception de l'un d'eux, qui gardait toujours le berceau de la jeune fille. Mais ils eurent beau courir le monde, du levant au couchant et du septentrion aux terres australes, ils ne découvrirent pas l'herbe qu'ils cherchaient et n'obtinrent à cet égard que de vagues renseignements. Ils en étaient d'autant plus tristes que, par un phénomène inexpliqué, Boule de Neige grandissait insensiblement dans son lit, sans cependant bouger plus qu'une souche. Ses épaules avaient fait craquer son corset, et l'on avait été obligé de la délacer pour éviter d'autres accidents. Sa robe devenait si courte qu'on avait dû lui couvrir les jambes, qu'elle avait du reste fort bien faite. Cela inquiétait les kobolds, qui pensaient qu'il était grand temps de la marier. Un soir qu'ils en causaient auprès du feu, ils entendirent frapper à la porte. C'était un prince des environs qui s'était égaré à la chasse et qui venait leur demander l'hospitalité. Les nains l'accueillirent fort bien et lui offrirent un lit et un souper. Le prince était jeune et bien fait. Il portait des moustaches blondes qui lui donnaient fort bon air. En outre, il avait de l'esprit, car pour payer sa bienvenue, il conta à ses hôtes plusieurs histoires fort divertissantes. Au plus beau moment de ses récits, il s'arrêta subitement. Il venait d'apercevoir Boule de Neige, dont les oreillers semblaient jaunes auprès de l'éclat éblouissant de son teint. Elle était couleur de neige fraîchement tombée. Sa figure charmante brillait d'une sorte de blancheur lumineuse. Le prince se leva pour admirer ce miracle de beauté, pendant que les kobolds, babillant à l'envi, lui disaient l'histoire de leur protégé. Le jeune homme les écoutait d'une oreille distraite et regardait la princesse avec une grande attention. « Attendez un peu, » dit-il à l'aîné des nains, qui racontait les voyages inutiles qu'ils avaient faits à la recherche d'un filtre. « Ne voulez-vous pas parler d'une plante odoriférante qui croît au centre de l'Asie, près des sources du fleuve jaune ?»« Il y a apparence, » dit le nain. « Eh bien, » répondit le prince, « je puis vous renseigner à cet égard, si vous me permettez d'embrasser cette belle fille. » Après un conciliabule, les nains y consentirent, et le prince, avec un sourire aimable, se pencha vers Boule de Neige et lui donna un baiser. Elle ne l'eut pas plutôt reçu qu'elle fit un léger mouvement et qu'une vague teinte rose monta à ses joues. Ses paupières se soulevèrent lentement. Elle promena les yeux autour d'elle, essayant de se mettre sur son séant, éternua et finit par retomber sur ses coussins comme épuisée par tant d'efforts. Les kobolds ne revenaient pas de leur surprise quand le prince leur apprit tout le mystère. Cette plante, si longtemps cherchée, était fort commune dans ces états, et comme elle avait des propriétés salutaires, il en portait toujours sur lui, en essence ou en infusion. Il leur avait à peine donné cette explication que Boule de Neige s'était assise sur son lit, rose et bien éveillée, tendant les mains à ses petits amis et un peu confuse de voir un étranger, car elle était fort déshabillée. Les sept nains allaient mettre le prince à la porte quand, dans un accès d'enthousiasme, il leur demanda la main de leur pupille, dont la beauté surpassait tout ce qu'on peut imaginer. Cette proposition les déconcerta. Mais Boule de Neige ayant souri, ils comprirent ce que cela voulait dire et donnèrent une réponse favorable, songeant d'ailleurs que la princesse était un peu compromise par le baiser de l'étranger. Quand le prince les eut entendus, il entra dans une telle joie qu'il fit des gambades extraordinaires, si bien qu'il cassa une notable partie de la vaisselle et que Boule de Neige fut obligée de lui dire qu'elle ne l'épouserait pas s'il ne se tenait un peu tranquille. Pendant que ces événements se passaient dans la chaumière, la reine vivait heureuse et tranquille dans son palais, et ce n'était que de loin en loin qu'elle consultait son miroir, qui ne lui faisait plus que de gracieuses réponses. Ce jour-là pourtant, poussée par je ne sais quel pressentiment, elle alla se mirer dans sa glace préférée et murmura machinalement en arrangeant ses cheveux. « Dis-moi, miroir, dis-moi la vérité. Quelle est la plus belle des femmes ?»« Ce matin, c'était toi, » répondit le miroir. Mais dans la forêt dangereuse, sous le toit des kobolds, Boule de Neige s'est réveillée et elle est, ô reine, mille fois plus belle que toi. La méchante femme ne put d'abord en croire ses oreilles. Elle devint verte de dépit et cramoisie de fureur. Sans perdre une minute, elle eut recours au poison qu'il avait déjà servi et elle en composa une eau corrosive pour défigurer sa rivale. Mais comme elle regardait dans la marmite où son affreuse potion mitonnait, le miroir, ennuyé peut-être de lui servir de complice, se détacha de la muraille et lui tomba violemment sur la nuque. Sa figure plongea dans le poison, elle se releva hideuse, couturée, ravagée et méconnaissable. Sa langue était brûlée, ainsi que ses yeux et ses vêtements. Quelques valets qui passaient par là crurent qu'une vagabonde s'était introduite dans le palais et la chassèrent avec un grand vacarme. Les chiens se mirent de la partie. Les marmitons eux-mêmes la poursuivirent à coups de cuiller, et comme on fermait sur elle la porte de la rue, elle tomba morte, étouffée par la rage. On chercha la reine quelque temps dans le pays, et bien qu'elle ne rendît pas son mari très heureux, il crut qu'il était dans les bienséances de la faire afficher et de promettre une récompense si on la lui ramenait. Elle ne se retrouva pas. Au bout d'un certain temps, malgré ses grandes affaires, le roi commença à s'ennuyer d'être seul et il parlait de faire un troisième mariage quand on lui annonça une visite inattendue. Il était à 100 lieues de penser à sa petite fille qu'il croyait morte depuis longtemps. Que devint-il en la voyant arriver en si grand équipage et dans un appareil somptueux? Il pouvait à peine la reconnaître. Il l'appelait madame et lui faisait des phrases et des civilités. Mais Boule de Neige se jeta à son cou et lui pardonna de bon cœur de l'avoir un peu négligée. Elle lui présenta son mari et ses pages, qui étaient 7 nains barbus fort cérémonieux, qui paraissaient l'aimer beaucoup. Lorsque le roi sut ce qu'il devait à ces petits bonshommes, il leur fit 1000 politesses et voulut qu'ils fussent de toutes les fêtes et de tous les festins. Ils s'y accordèrent, car c'étaient de bons compagnons, et ils firent si grande chère que Boule de Neige, qu'ils avaient veillé longtemps, fut obligée à son tour quelquefois de les ramasser et de les porter dans leur lit. Mais cela était excusable, car ils n'avaient pas beaucoup de monde.